Je fais beaucoup de choses et je souhaite, comme tout le monde, bien entendu, être satisfait de mes actes, de mes actions, de ce que je peux je faire. Mais souvent, je n'en éprouve aucun bonheur. Je suis déçu. Alors, je ne sais pas si ça vient de mon manque de méthode, si la façon dont je le fais, dont j'engage les choses. Je ne sais pas si c'est parce que je manque de patience, je n'ai pas assez de temps pour que les choses se réalisent. Et donc, il y a une espèce, disons, de petit agacement.
Oui. Et donc, que faire avec cet agacement? Je voudrais peut-être débuter cette réflexion sur la satisfaction avec ce proverbe populaire qui dit que personne n'est parfait. Ce proverbe populaire, je crois, est vraiment partagé, vécu, intégré
Il sert
à
d'alibi, hein.
Voilà, il sert d'alibi, mais il est, chez les chrétiens comme chez les non-chrétiens, terriblement vivant et vivace. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'esprit critique à notre égard et à l'égard de tout le monde, où on, comme vous le dites, il sert d'alibi et on légitimise le fait que finalement, dans ce que nous faisons, il y a toujours des choses qui vont pas bien. Alors, ce proverbe populaire, il vient assez largement à l'encontre de ce que dit le Nouveau Testament. Par exemple, si nous lisons la lettre de Paul aux Colossiens et que nous regardons le chapitre 1er et ce qu'il est dit au verset 28, nous lisons que Paul a un ministère particulier qu'il a reçu du Seigneur, qui est de présenter tout homme parfait en Christ.
Oui.
Alors on voit ici une réalité qui est tout à fait explicite, présenter tout homme parfait en Christ. Donc nous avons, nous, étant enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, du point de vue relationnel, un accès à Dieu qui est complet, et du point de vue actionnel, un ensemble de choses à faire qui est également complet, cet ensemble de choses. Et c'est ça la perfection. La perfection, c'est de faire ce que Dieu me demande. Le mot grec pour parfait, télos, on le trouve dans télescope. Scope, c'est regarder. Et télos, c'est tout ce qu'il y a entre mon télescope et très loin. Donc, la perfection, c'est la complétude, c'est l'ensemble des choses qu'il y a entre mon télescope et très loin. Donc, présenter tout homme parfait en Christ, c'est présenter tout homme complet. Pour donner une précision sur ce mot télos, par exemple, quand Jésus sur la croix dit c'est accompli, il dit c'est télos, c'est complet. Quand il est dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il fallait que Jésus soit complet ou consommé par des souffrances, c'est télos, c'est rendu complet. Avec ses souffrances, il fallait qu'il vive tout ce que l'humain vit. Et Jésus a vécu tout ce que l'humain a vécu, il a été complet, il a été rendu complet, ce qui peut nous paraître bizarre. Hein, est-ce que Dieu doit être rendu complet?
Oui.
Oui, il a été rendu complet par ses souffrances, c'est ce qu'il est dit au chapitre 2. Donc présenter tout homme complet en Christ ou parfait, c'est possible. Et en Colossiens 1:28, c'est ça. Et en Colossiens 4:12, il nous est dit que Épaphras combat pour nous par des prières pour que nous demeurions parfaits. Alors voyez que là, on est dans cette optique où nous avons à faire et à demeurer dans ce que Dieu nous demande. Et qui dit faire et demeurer dans ce que Dieu demande, dit forcément une satisfaction importante et précise. Et je crois que si on commençait par poser ces choses-là, alors certainement, on rechercherait beaucoup plus à la ressentir et on ferait beaucoup plus attention à ce qu'on fait.
Ah ouais, je reviens sur le être accompli, hein. C'est-à-dire qu'on réalise tout ce qui était à réaliser.
Oui.
Voilà. Et donc, on dit, c'est curieux que Dieu ait besoin d'être accompli, mais je pense plutôt à Jésus. Il est accompli parce qu'il souffre et qu'il a pris entièrement la condition de l'homme.
Oui.
C'est ça, vous vouliez dire, oui. Oui. Et donc, la satisfaction vient de l'action qui évidemment donc est réalisé pleinement,
Pleinement.
qu'on a donc tout fait.
Voilà.
Mais le problème, c'est que parfois, on se demande si on a tout fait et tout bien fait.
Et c'est pour ça que dans cette lettre aux Colossiens, il y a une structure, si vous voulez, qui est à remarquer. Commence au chapitre 1 et au verset 9 par la prière de l'apôtre Paul, qui écrit avec Timothée, et qui va dire « Nous ne cessons pas de prier », donc on voit cette insistance, cette persévérance, « pour que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Paul commence par cette prière,
oui.
Et en Colossiens 4, 12, il va dire « Épaphras combat pour vous par des prières, afin que vous demeuriez parfaits et bien assurés dans toute la volonté de Dieu. »
Voilà, donc il faut être sûr de quelle est la volonté de Dieu, de connaître exactement ce que Dieu nous demande exactement.
Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que dans cette lettre, Paul n'explique pas du tout comment discerner la volonté de Dieu, comme si c'était quelque chose d'évident.
Du moins compris, il pense qu'effectivement, on va être informé par l'esprit, guidé, éclairé, et qu'on va faire ce qu'il faut. Il suffit de demander.
On a donc besoin d'en dire deux mots.
Oui.
Dans le chapitre 1, verset 9, on peut noter dans cette expression « Nous ne cessons de prier pour que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Alors avec ces mots, en toute sagesse et intelligence spirituelle, voilà ce que je vous propose, vous allez me dire ce que vous en pensez. En toute sagesse et intelligence de l'esprit, nous recevons l'esprit de Dieu à la conversion. C'est essentiel de comprendre que dès l'instant où nous nous tournons vers Dieu par un acte de foi, par un acte finalement, somme toute logique, qui peut être mû par l'amour, hein, je crois en Dieu, mais je réalise à quel point j'ai besoin de lui et je me tourne vers lui parce qu'il me manque.
Oui, il faut qu'il y ait une adhésion.
Il y a une adhésion, mais qui peut être aussi un acte logique, par exemple en disant « Dieu, je reconnais mon vide, mes carences, mes fautes, etc. et je me tourne vers toi pour que tu me sauves » ou un acte face à ce qu'a fait Jésus-Christ. Dieu, je reconnais que tu es venu en Jésus-Christ et que tu m'as manifesté l'amour et que tu m'as sauvé en venant mourir sur la croix. Alors, dès l'instant où je me positionne, comme vous l'avez dit, par rapport à Dieu et où je reçois son salut, alors dès cet instant, je suis, me dit la Bible, Éphésiens chapitre 1er, versets 13 et 14, je suis scellé de l'Esprit de Dieu, comme si Dieu me mettait un sceau qui est indélébile, et je deviens enfant de Dieu, je lui appartiens. Et il y a d'autres passages, comme par exemple 2 Corinthiens 1, 21, qui me dit que je suis également oint de l'onction de l'Esprit. Dieu répand son Esprit en moi, je deviens l'habitation de Dieu par l'Esprit, je deviens en quelque sorte le temple de Dieu personnellement. Et l'esprit de ce fait, l'Esprit de Dieu repose en moi et il me conduit. Jésus l'avait annoncé au chapitre 16 de Jean, hein, l'Esprit, le Consolateur qui viendra, vous conduira dans toute la vérité. Il disait ça à ses disciples et c'est ce qui s'est produit à la Pentecôte. Alors cet Esprit, il est en moi, mais Paul dans sa prière va dire qu'il est en moi en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je ne crois pas que l'Esprit de Dieu me dise « Guillaume, va boire un café. » Guillaume, pour un café, tu mets une dose par petite tasse, s'il te plaît. Je ne crois pas qu'il me dise ça. L'Esprit, il m'apporte la sagesse et l'intelligence.
Mais si vous le disiez, vous prendrez pour, disons, un robot.
C'est ça, une marionnette. Voilà, je serais téléguidé.
Je serais téléguidé.
Alors que Dieu m'appelle à être sage et intelligent.
À comprendre et à savoir faire ce qu'il faut faire.
Et donc, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est que l'intelligence et qu'est-ce que c'est que la sagesse?
Oui.
Et ça nous amène à être satisfait. J'arrive pas à être satisfait.
Oui.
Alors, l'intelligence, c'est la faculté de comprendre comment quelque chose fonctionne. Par exemple, si ma chaise est cassée, je vais être intelligent et je vais la recoller, par exemple, et comprendre que la colle à bois est là avec les chevilles ou d'autres choses. Mais la sagesse, c'est plutôt le comment bien utiliser la chaise. C'est par rapport au bien et au mal, la sagesse. Alors que l'intelligence, c'est plus général et ce n'est pas par rapport au bien et au mal. Je peux, moi, être intelligent et comprendre comment fonctionne mon ordinateur, mais je peux ne pas être sage pour mal l'utiliser. Si je l'utilise pour taper sur la tête de quelqu'un, par exemple,
oui,
c'est un peu dommage.
Son usage habituel. Voilà.
Et je crois que c'est absolument explicite dans ce verset de Colossiens que l'Esprit de Dieu qui est en moi me conduit dans la sagesse et l'intelligence. Et c'est comme ça que j'en viens à discerner la volonté de Dieu à tout moment. Ce n'est pas tellement la volonté de Dieu ni générale ni spéciale. Hein, la volonté de Dieu générale, c'est par exemple qu'on fasse du bien. Et la volonté spéciale, ça serait qu'on fasse du bien à mon voisin de droite le mardi matin à 10h moins le quart en lui disant bonjour et en lui demandant comment est-ce qu'il va. Non, de manière beaucoup plus générale, je crois que l'Esprit de Dieu me conduit dans quelque chose dont j'ai besoin à tout moment de pouvoir préciser ce que je dois faire.
Donc il suffit de s'en remettre à Dieu et pour gagner cette confiance, savoir prier, pour obtenir cette sagesse et cette intelligence.
Je dirais de rentrer dans une véritable collaboration avec l'Esprit de Dieu, d'apprendre à faire suivre mon regard sur toute chose, sur toute personne, sur toute circonstance, de cette richesse de l'Esprit de Dieu qui me permet de recevoir sagesse et intelligence concernant ce que je dois penser, dire ou faire.
Oui. Et oui, d'ailleurs, il est dit aussi, c'est Jacques, je crois, que si on manque de sagesse, si on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment de sagesse, il suffit de prier avec foi pour l'obtenir. Et Dieu nous l'accordera.
Et de ce fait, toute marche avec Dieu, qu'on soit dans une circonstance difficile ou facile, est une marche dans laquelle je peux être satisfait. Ce n'est pas la circonstance qui me donne d'être satisfait, c'est de faire ce que Dieu me demande qui me donne la satisfaction. Et cette satisfaction, il faut que je sois, que moi je me mette en mesure de l'apprécier. C'est un des constituants de mon bonheur.
Voilà, oui, bien sûr.
Je devrais, non seulement à la fin de la journée, mais tout au long de la journée, rentrer dans cette appréciation de ce que j'ai fait en disant, j'ai fait ceci, cela, j'ai rencontré telle et telle personne, et j'en éprouve une satisfaction particulière, mais je l'éprouve parce que je la regarde comme telle.
Oui, parce que c'est Dieu qui vous a conduit à faire cette rencontre ou à mener cette action.
Voilà, et c'est pour ça qu'elle a cette valeur. Finalement, la satisfaction, c'est le sentiment éprouvé à l'égard de l'action suffisante.
Voilà. Et il ne faut pas le regarder avec nos propres lunettes, mais voir que c'est celle de Dieu qui compte.
C'est ça. C'est ça. En quelque sorte, retrouver Dieu dans le regard qu'il a sur les choses et se dire, par exemple, dans notre société, tout reste à faire parce qu'on est encore cambriolé, méprisé, tyrannisé, spolié, etc. Mais on peut toujours faire des choses qui contribuent à l'œuvre de Dieu et dans lesquelles on en est profondément satisfait parce que nous savons que tout ce que nous faisons et ferons peut rentrer dans cette œuvre dans laquelle Dieu est souverain et qui l'amènera à l'aboutissement.
Donc en fait, la bonne méthode, c'est de se dire c'est Dieu qui est souverain et je dois me satisfaire de ce que je viens de faire comme je l'ai fait.
Oui, avec ce risque que beaucoup de personnes en souffrance estiment que tout ce qu'elles font, c'est inutile.
Oui, mais ça, c'est leur lunette.
C'est leur lunette. Et donc, il faut arriver à changer de lunette, à entendre d'autres choses, à joindre la foi à l'action qu'elles sont en train de faire, en sachant que cette action-là les mène sur un véritable chemin avec un véritable aboutissement. Et on se dit, waouh, comme c'est fort, comme c'est important ce que j'ai fait, et c'est important parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'amène dans cette réalisation-là. Donc pour conclure, dans la souffrance, une grande partie de notre souffrance est liée à l'insatisfaction que nous avons finalement de ce que nous faisons dans telle ou telle circonstance, mais cette insatisfaction ne provient pas des circonstances. Elle provient de notre manière de faire. Alors commençons par discerner la volonté de Dieu. Il y a tout un travail personnel, intérieur à faire. Et à la suite de ce travail, il est absolument clair que nous verrons et nous ressentirons comment Dieu nous amène à bien faire dans ces circonstances. Et si nous sommes dans le bien faire, alors nous serons également dans une satisfaction qui ne sera pas de l'orgueil, de la fierté, mais qui sera un sentiment tout à fait légitime et tout à fait agréable.